sur France Inter, on va déguster.
Je ne sais pas si vous avez peur du vide, François-Régis.
Oui, enfin, un peu, comme tout, comme nous tous, non?
Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas que la nature, et vous, donc, qui avez horreur du vide. Les hommes politiques aussi.
Ah.
Dès qu'ils voient un vide, le législateur saute dessus, comme vous et moi, sur une pizza napolitaine. Ça s'appelle le vide juridique, qu'il faut impérativement combler, nécessairement remplir. L'inflation législative est à la démocratie ce que l'excès de sucre est à nos pâtisseries. Alors, il y a quelques mois, une députée française a déposé une curieuse proposition de loi destinée à protéger légalement rien de moins que les recettes de cuisine. Il s'agit, selon cette parlementaire, de protéger pendant 20 ans, mon Dieu, 20 ans, je cite, une activité créatrice démontrant le caractère dégustatif singulier. Les cartes de nos restaurants de demain seront copyright ou ne seront pas. Alors, vous imaginez les sœurs Tatin breveter leur fortuite trouvaille renversée? Les huissiers de justice débarquant en cuisine pour rédiger moult procès-verbaux de constat au nom de la sacro-sainte protection de la crème brûlée? Les avocats se frottant les mains et les babines au moment de plaider la fameuse affaire du clafoutis aux cerises non dénoyauté de nos grands-mères?
Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'il vaut mieux en rire?
Alors, disons que jusqu'ici, et c'est heureux, les juges français ont déjà répondu non et les juges européens aussi. Une recette de cuisine n'est pas une œuvre de l'esprit. Alors, j'entends déjà certains couteaux s'aiguiser, mais c'est ainsi. Elle n'est finalement qu'une suite d'instructions, une simple méthode, pas toujours si simple d'ailleurs, un empilement de savoir-faire et de connaissances techniques et théoriques. On pourrait même dire, à l'instar du philosophe Michel Serres, qu'une recette de cuisine n'est qu'un algorithme. Alors, que la quiche Lorraine ne soit pas une œuvre créatrice, on peut l'entendre. Ami Lorrain, je vous aime quand même. Mais quid de création culinaire originale et parfois géniale? Certains chefs, faute de protection légale, ont parfois déposé leur œuvre farinée comme des marques et ont même intenté des procès. C'est ainsi qu'Alain Passard, le chef du restaurant triplement étoilé L'Arpège à Paris, veille jalousement sur sa tarte bouquet de roses dont il a protégé le nom.
Il y a aussi l'exemple de la tarte tropézienne à Saint-Tropez. À un moment donné, le propriétaire de cette tarte tropézienne attaquait tous les pâtissiers qui s'aventuraient à faire cette espèce de hamburger de brioche avec une crème mi-pâtissière, mi-fouettée.
À la fleur d'oranger.
À la fleur d'oranger, absolument.
Alors, où commence la protection?
On sent le connaisseur.
Où commence la protection et où s'arrête la liberté? Dire qu'un parfum n'est qu'une formule mathématique, mais c'est oublier la peau qui le porte, le sillage qu'il trace. C'est même effacer la femme ou l'homme et ne retenir que les molécules. Une recette de cuisine n'est pas un algorithme, et tant pis pour Michel Serres. Il lui faut, en plus des instructions et du grammage, un petit truc en plus, une étincelle que n'auront jamais les copieurs. C'est le secret de l'inventeur. D'ailleurs, en droit, celui qui découvre un trésor, on l'appelle l'inventeur. Ainsi comme quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, finalement il invente l'Amérique. Pareil pour le couscous de Morteau de l'inventeur Sébastien de Moran qui nous écoute au paradis des gourmets. Alors, si cette proposition loi devait aboutir, spoiler, elle ne sera pas, mais on va garder un œil dessus, elle serait difficile à mettre en œuvre. Car le droit autorise depuis toujours la copie privée, permettant de reproduire une œuvre jusque dans les cuisines personnelles des gourmets, ce qui est heureux. Le bonheur laissé libre en quelque sorte. Et parce qu'il y aura toujours des avocats pour s'y opposer, car nous sommes tout autant des gastronomes que des auxiliaires de justice, même en grève, et que nous portons aussi gaiement le tablier taché que la robe noire et l'hermine.
Le pire n'est donc pas à venir.
Eh bien non, a priori non, mais on va rester vigilants et gardons en mémoire cette phrase du génial pâtissier Cédric Grolet. Si c'est beau, les gens viendront. Si c'est bon, ils reviendront.
Ah, il a le sens du business, hein, ce Cédric Grolet.
Alors, entartrons, copions donc tant que Dieu nous prête vie. Mais avant de réussir mieux que notre invité Jean Séveigne,
pas possible.
Des pommes duchesses à damner un saint ou un vol au vent aussi dingue, avant de faire meilleur, essayons déjà, tout simplement, de faire aussi bon.
Bravo, très bien. Bon, voilà une bonne leçon, et notamment à l'intention de tous ceux qui veulent protéger leurs recettes jalousement. Et là, qu'est-ce que vous ouvrez? J'entends un bruit un peu suspect.
Ben, je savais pas que Jean Séveigne avait mis du morgon dans son bœuf bourguignon, et moi j'ai apporté un moulin à vent. On n'est pas très très loin, on est dans le Beaujolais. Isabelle et Bruno Perrault qui font un moulin à vent incroyable. C'est 100% nature, on est dans des vignes avec des coccinelles et de l'herbe, et on est dans le Gamay, et je me suis dit, en plus, on va parler tout à l'heure de la blanquette, que c'était un qu'allait pouvoir aller avec les deux.
Un point adaptable.
Adaptable à la fois au bœuf bourguignon et à la blanquette.